Donc aujourd'hui, quand je suis arrivée, Monique m'a dit « bonne fête ». Je lui ai dit « pourquoi tu me souhaites la bonne fête ?» Elle me dit « c'est le 1er mai, fête du travail ». Et j'avais réalisé, mais avec retard, c'est que je vais vous parler de la parabole des talents. Donc je vais vous mettre au travail. Pour une fête de travail, c'est mal fichu, mais quand même. Hein. Voilà. Donc je vous lis dans Matthieu 25, les versets 14 à 27. C'est bon. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha lui aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui t'est dû, ce qui est à toi. » Et j'arrête là. Donc, cette parabole, j'ai essayé de trouver les titres dans les différentes versions. Dans la Taube, il est nommé les talents. Dans la Thomson, la parabole des talents. Dans la Bible, en français courant, il est écrit la parabole des 3 serviteurs. Et dans la parole vivante, accrochez-vous, privilège et responsabilité. Voilà 4 titres pour un même texte. Maintenant, j'aime toujours situer un texte dans son contexte. Et donc, dans la première partie du chapitre 25, Matthieu va nous raconter la parabole des 10 vierges. Et dans la dernière partie, il s'agira du jugement dernier, quand Jésus va revenir pour juger l'humanité. Dans la première partie, on trouve 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Je ne sais pas de quel côté on se situe. Donc 5 ont préparé de l'huile en réserve pour leur lampe, pour accueillir l'époux quand il reviendra. Et 5 autres, insouciants, n'ont pas d'huile pour allumer leur lampe. Donc quand l'époux arrive dans la nuit, les 5 premières peuvent entrer avec l'époux et les 5 autres restent dehors. Déjà, première interrogation. Et puis, au jugement, avec ce que dit Jésus concernant le jugement de la fin, les hommes vont être jugés selon leur conduite, dit-il. Et il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger, vous m'avez accueilli. Et les premiers répondront, interrogeront Jésus en disant, mais quand est-ce que tu a eu faim, etc. Et Jésus répondra, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, donc la parabole des talents, se trouve entre la parabole des dix vierges et le jugement dernier. Un peu particulier. Donc à l'époque de Jésus, il faut savoir qu'un talent, c'était d'abord une unité monétaire. Comme notre héros, euro n'est pas un héros malheureusement, notre euro d'aujourd'hui. Un talent valait 6000 deniers, donc c'est pas rien. Et sachant qu'un denier correspond au salaire moyen d'une journée de travail, un talent représentait le salaire de 17 années de travail. Deux talents représentaient donc presque le salaire de toute une vie. Quant aux cinq talents, aucun smicard aujourd'hui ne pourra en avoir assez. On en aura suffisamment. Alors cette parabole a de quoi nous choquer, hein, choque plus d'un. Parce qu'on a l'habitude de se représenter Jésus comme un maître qui va mettre en gérance ses biens provisoirement, puis ensuite il rentre et puis il dit « Allez, à la caisse ». Voilà, c'est un peu comme ça qu'on se l'imagine. Et dans ce cas-là, ben, le troisième serviteur, il a raison. Le maître est quelqu'un de pas très gentil. C'est un dur et exigeant maître. Alors Christophe m'a interpellé quand j'étais en train de faire ce message en me disant, tu sais, on m'a appris à la plateforme que le mot serviteur, ça veut dire esclave du temps de Jésus. Je dis, tiens, je me suis dit, je ne m'imagine pas vraiment un maître donner un, deux ou cinq talents, c'est-à-dire un, deux ou cinq fois 6000 deniers à trois de ses esclaves et puis de partir pour un long voyage en les laissant dilapider ses biens. Ça passait pas trop. C'était davantage, semble-t-il, des gérants, des intendants comme Joseph avec le roi Potiphar, et aujourd'hui on parlerait peut-être de collaborateurs, de directeurs adjoints, etc. Si on accepte de bien faire attention à certains mots employés par Matthieu, on peut comprendre que le maître donne les talents, mais il n'est pas dit qu'il va les reprendre. Première surprise. Aujourd'hui, ça serait très difficile d'imaginer un directeur d'entreprise qui partirait à l'autre bout du monde en jet set et qui reviendrait en disant à ses collaborateurs voilà, vous avez eu tel bénéfice, je vous laisse la somme que je vous ai donnée, je vous laisse le bénéfice. Ça colle pas trop bien avec mon idée que je me fais des restes millionnaires de notre planète. Hein. En général, ils donnent leur argent à gérer à d'autres, mais ils demandent bien les dividendes plus l'argent lui-même. Ce qui veut dire qu'en fait, les deux premiers collaborateurs vont se retrouver avec, pour le premier, 30 000 deniers, multipliés par deux. Hein, 5 fois 6 000 talents, ça fait 30 000. Multipliés par deux, ça fait 60 000. Si on ajoute qu'à la fin, on lui donne les 6 000 deniers du premier, ça fait 66 000. Et le second va en avoir 24 000. Vous imaginez, si c'est un méchant maître, je voudrais bien en avoir un pareil, parce que je n'aurai jamais ça qui me sera donné par mon employeur. Alors, la traduction courante de ce texte nous dit aussi que on a l'impression que en rentrant, le maître va demander des comptes. Or, il est certains exégètes ont décidé de voir une autre explication et donc de dire que le maître va demander des explications sur la gestion. Il va leur dire comment ça s'est passé. Je vous ai donné quelque chose à faire fructifier, comment vous l'avez fait, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, comment ça se passe, etc. Et donc, les deux premiers serviteurs ne rendent ni leur argent, ni leur tablier. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de gérer les biens du maître, qui sont devenus, entre guillemets, les leurs, entre les deux. Ce sont leurs deniers, ce sont leurs talents, c'est leur argent, hein, les leurs, leurs talents. Hein. Donc sans se tromper, on peut imaginer que sous les traits de ce maître, on peut imaginer les traits de Dieu notre Seigneur. Le Dieu créateur a donné aux hommes ce qu'il a de mieux. Le Dieu créateur nous a donné ce qu'il a de mieux, à savoir l'œuvre de sa création. Il a fait encore mieux, et ça, on l'a vécu avec la scène, il nous a donné Jésus. Mais dans un premier temps, il nous a donné, depuis le jardin d'Éden, la gestion de sa création, la Terre. Notre planète Terre, vous savez ce qu'on en a fait malheureusement, je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'était ce que Dieu nous avait donné en héritage. Alors, autant les deux premiers collaborateurs vont faire fructifier leur bien, le bien du maître qui va devenir le leur, autant le troisième n'a pas reçu sa part comme un don. Il l'a reçu comme un objet dont il avait la garde, et pour ne pas le perdre, il l'a mis dans la terre et l'a ressorti quelques années plus tard, pareil, bien enveloppé, ça n'avait pas rouillé, et il le redonne au maître. Il s'est considéré comme un serviteur, chargé de veiller sur le talent que son maître lui a donné. Et il l'a restitué de la même manière. Mais il n'est pas devenu comme les deux autres créateurs. Il n'est pas devenu à la ressemblance et à l'image de son maître, comme nous, nous sommes appelés à être créateurs à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Et donc, ce troisième serviteur a gardé son habit de serviteur et n'a pas revêtu l'habit de fils. Ça, c'est important. Il nous faut revêtir l'habit de fils et de fille de Dieu. Donc, nous sommes participants de cette œuvre créatrice que le Seigneur nous a donnée. Nulle part, il ne nous est dit dans la Bible, je pense, que Dieu veut faire de nous des esclaves. Peut-être je me trompe, alors si oui, levez le doigt. Je ne pense pas qu'il y ait un endroit où il nous est dit qu'il veut faire de nous des esclaves. Par contre, il nous est dit qu'il veut faire des fils et des filles. Dans Galates 4, au verset 4 à 6, il est écrit « Quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son fils afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi, à des obligations, à d'énormes obligations. » J'ai vu dans ma Thomson que les Juifs en étaient arrivés à avoir 613 lois à respecter. Vous imaginez, ils sont peut-être encore, malheureusement, certains en train d'être sous la loi. 613, ils en ont rajouté aux 10 commandements, hein. Un paquet. Pour nous prouver que nous sommes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans notre cœur l'Esprit qui crie « Abba, Papa ». Nous ne sommes donc plus esclaves, mais enfants, fils et filles de notre Père dans le ciel. Alors, je vais terminer avec une petite réflexion personnelle que je me suis faite. Je crois que dès notre naissance, dès ma naissance, j'ai reçu un potentiel, un capital, capital génétique, capital de qualité, capital de capacité, et vous de même, hein, vous avez un capital qui vous appartient et qui vous est personnel. Et ce capital, c'est pas de l'argent. Donc on transverse, on n'est plus dans les talents, les deniers, les euros, les dollars, mais on est vraiment avec notre capital personnel. Et ça va être nos dons, ça va être nos désirs, désir d'accomplir telle ou telle chose. Ça, c'est ce qui est en nous. Alors, je sais que mes rêves de 20 ans, mes rêves de 30 ans, mes rêves de 40 ans, mes rêves de 50 ans, j'arrêterai à 55, mes rêves de 55 ans, sont plus tout à fait les mêmes. Je dois dire qu'ils ont évolué. Je voulais être journaliste. Ben non, je ne suis pas journaliste, hein. Donc, au fil de notre marche, on découvre progressivement notre potentiel. On a du potentiel. Et ça, c'est important. Parce que quand on rencontre des gens qui disent « je ne vaux rien du tout, je suis rien », etc., c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie qui a fait que ce potentiel cuic, il a été cassé. Cassé par des paroles négatives, cassé par plein de choses. Donc, au milieu de nous, il y a des personnes différentes et donc des dons différents. J'en ai nommé quelques-uns. Il y en a qui sont doués pour la guitare, pour le chant, pour la musique, pour l'électricité, pour la mécanique, pour la photo. D'autres aiment bien s'occuper des enfants, d'autres des personnes blessées, des personnes âgées. Certains ont des dons d'organisation. D'autres sont aussi visionnaires, il en faut. Voilà. Chacun a reçu, selon sa capacité et sa force. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez eu ou est-ce que vous avez des difficultés à connaître vos capacités, votre potentiel ? Moi, je dois dire qu'à un moment donné, oui, ça m'a été franchement très difficile. Après 20 ans à la communauté chrétienne de la réconciliation où j'avais été secrétaire, et puis quelques années après, j'ai dû faire une reconversion dans le cadre de mon travail parce que mes mains, mes deux petites marionnettes, ne me permettaient plus de taper à la machine aussi souvent. Et donc j'ai été faire ce qu'on appelle un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, ben, il fallait noter un certain nombre de choses. Ce que j'étais capable de faire, ce que j'avais fait, tatata. Bon. Je me retrouve devant ma page blanche, zéro. Rien ne sort. Je peux vous dire que j'aime beaucoup écrire, donc quand rien ne sort, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors l'animatrice de groupe, me voyant devant ma page, est venue et m'a dit « Mais peut-être vous pourriez faire plusieurs colonnes. Dans la première, vous pourriez mettre ce que vous avez fait jusqu'à présent. » Que ce soit dans le cadre de votre travail, mais aussi dans le cadre d'autres activités. Dans une autre colonne, vous pourriez noter vos compétences, les compétences que vous avez utilisées pour faire ces différents travaux. Dans une troisième, vous pouvez écrire ce que vous rêvez, ce que vous désirez faire pour l'avenir, ce qui vous semble aussi possible avec vos compétences. Et dans la quatrième colonne, si vous le voulez, vous pouvez noter les compétences et les capacités qui vous manquent pour atteindre votre but. Alors là, moi, j'étais réglée. Chuta, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Je suis partie. Colette, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et j'étais débloquée. Et je pense qu'il faut parfois avoir un truc comme ça, des outils pour aider à comprendre. Parce qu'on a du mal, en plus, en tant que chrétien, à dire « j'ai telle qualité, je sais faire ci, je sais faire ça ». On va vite se dire « oh là là, attention à l'orgueil spirituel, tu vas te montrer ». Non, ce sont des capacités, des compétences qui nous ont été données, qui sont soit innées, soit acquises, soit cadeaux. Hein, cadeau, on verra dans quelques semaines, c'est Pentecôte, on aura aussi les dons du Saint-Esprit. Hein. Là, vraiment, c'est cadeau de chez cadeau. Cela, je n'en parlerai pas. Mais on ne peut que les recevoir et les utiliser. Donc, ce bilan de compétences m'a aidé à comprendre ce que je pouvais faire, ce que j'avais fait déjà, mon acquis, mes talents, hein, ce que je faisais là à ce moment, et ce que j'aimerais ce que j'aimerais faire. Et je me suis donc dirigée vers mes études de médiatrice familiale. Après, j'ai passé mon diplôme d'EDUXP. Après, j'ai repassé ma validation d'acquis de médiatrice, etc. Puis d'autres choses pour d'autres sujets. Alors voilà, est-ce qu'il nous est possible, aujourd'hui, ou dans quelques jours, ou dans quelques semaines, de faire le bilan de nos compétences en tant que chrétiens? Quels sont les dons, les capacités que Dieu nous a donnés? Et j'ai envie de dire, il n'y a pas des petits et des grands dons, hein, parce qu'on a un grand Dieu, point. Donc, à sa ressemblance de créateur, on est appelé à poursuivre son œuvre de création, chacun selon nos capacités. N'allons pas dans le champ du voisin pour regarder ce qu'il fait mieux que nous, ou dans le champ de l'autre en disant « nanana, je fais mieux qu'un tel, talala ». Non, on regarde dans son champ avec nos capacités. Est-ce qu'on se les demande régulièrement? Et est-ce qu'on demande au Seigneur « Seigneur, comment je peux te servir ?» Ça peut être dans mon travail de tous les jours. J'y passe quand même du temps dans mon travail de tous les jours. Ça peut être au sein de ma famille, ça peut être au sein de l'Église. Dans quel domaine, Seigneur, désires-tu que nous te servions? Dans quel domaine veux-tu que nous nous formions? Parce qu'en fait, entre le moment où je sais ce que je dois faire et le moment où je peux le faire, il y a un temps. Et ce temps s'appelle l'attente, la formation, la maturation. Emmanuel a passé un concours pour être assistante sociale. Il y a un temps où elle s'est préparée pour ce concours. Puis il y aura un temps où elle va se former. 3 ans, c'est ça? Et après, seulement, elle sera assistante sociale. Pour être infirmière, c'est pareil. Dans chacun de nos métiers, la plupart du temps, il a fallu qu'on apprenne, qu'on aille sur les bancs d'école. Et on peut être amené à être sur les bancs de l'école de Dieu. Il faut du temps, et ce n'est pas du temps perdu. Prenez le temps de voir ce à quoi Dieu vous appelle et formez-vous dans ce sens. Jamais perdu. Alors j'aimerais terminer, j'ai fait vite, hein, franchement, j'ai fait pour que vous ayez la fin, vous deux. Hein. Donc j'aimerais terminer avec cette question. Avons-nous un rêve pour notre vie? Avons-nous un rêve pour notre vie? Il y a bien sûr notre travail, il y a bien sûr nos activités. Mais est-ce qu'au-delà de tout ça, Dieu a planté à nous un rêve? Ça peut être l'évangélisation, ça peut être faire des études bibliques, ça peut être docteur de la loi, être prophète, etc., les ministères. Ça peut être toucher les jeunes de notre société, ça peut être accompagner en fin de vie les personnes âgées pour qu'elles ne terminent pas toutes seules leur parcours sur cette terre et qu'elles aient une chance de se tourner vers Dieu. Ça peut être plein de choses. Avons-nous un rêve? Et sinon, osons en demander un au Seigneur. Osons dire, Seigneur, quel est le rêve que tu aimerais que j'aie? Quand Robert Rive, que certains connaissent, est arrivé au Château Blanc, alors j'ai appris ça par Jean et Maggie, le Seigneur lui a montré que le Château Blanc serait un endroit où le Dieu créateur désirait racheter les rêves de plusieurs. Ça devient une maison de prière. Et une maison de prière, c'est un lieu où on amène nos rêves sur l'établi du Seigneur et où il le travaille. Et j'ai envie de nous dire, mais ayons des rêves qui dépassent nos petites. Voilà. Quand j'étais, pour une fois, j'en parle un tout petit peu, Je viens de terminer ma formation FERACPA en Suisse. Et donc, il y a 2 ans, l'an dernier, Anita, qui est ma référente, nous a dit, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait TCI, elle nous a dit, avez-vous un rêve? Et sinon, demandez au Seigneur de vous en donner un. Et je me suis vue en train de dessiner la France. Voilà, j'irai pas plus loin. Mais je me dis, c'est quelque chose qui est là-dedans. Et depuis 1 an et demi, je le porte, il est là. Et je l'apporte régulièrement au Seigneur. Et je le partage avec des gens. Et je prie avec des gens pour ça. Ce rêve, il est là. Alors, et dernièrement, j'ai vu une amie de Maggie, Marie-Léon, qui m'a dit, mais tu sais, tu ne demandes pas beaucoup, hein. Tu peux demander bien plus que ça. Et je me suis dit, oh là là, de quoi elle parle? Mais voilà, c'est ça. On peut demander beaucoup parce qu'on a un grand Dieu. Et ça, c'est important. Sachons que notre Dieu n'est pas limité à nos petites idées. Voilà, je termine simplement par un temps de prière. Seigneur Jésus, tu, avec le Père et l'Esprit, tu nous as donné ce qu'il nous fallait pour traverser notre vie en tant que bon et fidèle serviteur. À qui tu donnerais sûrement là-haut de plus grandes choses à gouverner, à mener. Seigneur, je crois vraiment que tu as donné à chacun un potentiel qui lui est personnel. Et je te loue pour ces potentiels. Je te loue pour toutes ces capacités qui peuvent être mises à ton service. Merci pour tout ce que nous pouvons en faire. Et merci de nous aider de les apporter régulièrement, ces talents, ces capacités, ces rêves, ces désirs, que nous puissions nous les partager les uns aux autres et grandir avec, dormir avec, nous réveiller avec, et faire en sorte que ces talents deviennent vie, prennent vie. Arrose-les par ton Saint-Esprit, arrose-les par ta pluie du ciel. Et tout cela, tous ces talents, tu nous les as donnés pour l'édification de ton Église, non pas pour notre propre petite gloriole, mais pour l'édification de ton Église.